Vous écoutez Radio Cinto, émission spéciale Salon du Livre Jeunesse 2022.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Salon du Livre 2022. Cette année encore, avec la pandémie, avec les conditions sanitaires, on a dû s'adapter. Alors on a réfléchi et on va vous proposer aujourd'hui un contenu différent des autres années.
Et oui, parce que cette année, c'est une émission 100% consacrée aux auteurs qu'on va vous proposer. Ils seront là, en plateau avec nous, pour répondre aux questions de nos journalistes.
Marie Collot, Eve Pourcel, Sylvie Bossier, Jean Leroy, Yael Hassan, Rachel Hausvater. Les auteurs vont se succéder à nos micros et on commence avec un duo de journalistes.
Baptiste et Sacha, qui vont interviewer notre premier invité, Vinoc, pour l'album La commode tiroir de couleurs. Allez, petit jingle et on y va!
Émission spéciale Salon du Livre Jeunesse 2022. Rencontre avec les auteurs.
Bonjour Vinoc, vous êtes dessinateur de BD. Vous avez étudié à l'Institut de Saint-Luc de Tournai. Pouvez-vous nous expliquer comment se sont passées vos années à Saint-Luc?
Bonjour à tous, ça s'est très bien passé. Effectivement, je suis allé à Saint-Luc après le bac pour apprendre le dessin et plus particulièrement le dessin de bande dessinée parce que c'est un type de dessin un peu particulier. Il faut apprendre à dessiner, il faut apprendre à raconter l'histoire en même temps. Donc c'est ça qu'on apprend dans ce genre d'études.
De 1999 à 2001, vous publiez avec Marc Jailloux trois albums d'une BD appelée Pierre du Nord. Comment se sont passées ces deux années de dessin?
Je pense qu'il y en a un peu plus que deux années de dessin, mais c'est pas grave. c'était effectivement mes premiers albums. J'ai rencontré Christian Jailloux. En fait, Marc, c'est un autre Jailloux qui fait partie de la bande dessinée aussi, du monde de la bande dessinée. C'est un autre auteur que j'ai déjà croisé une fois. Et là, Christian Jailloux, en fait, il avait l'idée de faire ses albums, donc d'écrire les histoires. Et moi, je l'ai rencontré pour les dessiner. J'ai eu la chance de rencontrer Christian Jailloux alors que je terminais mes études. Donc, j'ai pu démarrer vraiment la bande dessinée tout de suite après mes études. Et ça m'a permis de faire mes premières armes, effectivement, en dessin. J'avais appris le dessin, mais de le faire à l'école, on fait juste au maximum une dizaine de pages de dessin. Et là, c'était de développer ça sur tout un album, donc sur 46 pages, ce qui est assez long. Et autre chose très importante aussi, j'ai découvert et appris l'ordinateur, l'usage de l'ordinateur à ce moment-là, puisque quand j'ai fait mes études, il n'y en avait pas encore d'ordinateur à l'école. Et donc, j'ai appris tout sur papier. Et en faisant ces premiers albums, j'ai appris les outils logiciels que j'utilise encore maintenant pour faire la bande dessinée.
Ensuite, en 2004, vous retracez les pas d'Auguste Maltier, égyptologue du 19e siècle et père fondateur de l'égyptologie moderne. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez mené à bien ce projet seul?
Alors, c'est un projet, c'était là aussi une rencontre un petit peu particulière. En 2004, il y a eu une très grosse exposition à Boulogne-sur-Mer, la ville natale de Mariette, une exposition sur l'Égypte, avec des œuvres qui venaient de plein de musées différents, de Londres, de Berlin, de Turin, du Caire. Donc, une très grosse exposition et la ville avait lancé un appel à projet autour de cette exposition-là pour parler de Mariette. Et donc, moi, j'ai proposé effectivement de faire en bande dessinée son histoire. Et pour le coup, j'étais effectivement tout seul. Autant avant, j'avais travaillé avec un scénariste. Là, j'étais tout seul pour faire ça. Donc, faire raconter son histoire à partir de biographies existantes et puis faire le dessin et puis faire la mise en couleur. Donc, j'ai vraiment tout fait dans un temps très court, un peu un temps record pour une bande dessinée, puisqu'entre le moment où j'ai démarré et le moment du début de l'exposition, j'ai eu que 6 mois pour faire l'album. Donc, ce qui est pour un album de bande dessinée très, très court.
Enfin, novembre 2021, vous publiez avec Amélie Cos « La commode au tiroir de couleurs », version BD du livre d'Olivia Ruiz, chanteuse et autrice. Comment est né ce projet, cette collaboration avec Amélie Cos? Olivia Ruiz, vous en a-t-elle fait un retour?
Oui, alors dans l'ordre, alors Amélie, c'est une toute jeune autrice qui doit avoir 23 ou 24 ans aujourd'hui. Que j'ai rencontrée, elle est lilloise, je l'ai rencontrée ici à Lille et elle terminait ses études quand je l'ai rencontrée et donc je l'ai un peu aidée à présenter son travail auprès de l'éditeur avec qui je travaille habituellement et ça a tout de suite marché avec l'éditeur. Et puis un an après cette rencontre à peu près avec l'éditeur, on nous a proposé de travailler sur l'adaptation de La commode au tiroir de couleurs. L'adaptation du roman d'Olivia Ruiz, et de travailler avec Olivia Ruiz aussi, qui a été, non seulement elle a fait un retour, mais elle était vraiment présente tout au long de la création de l'album, pour que ce que l'on raconte corresponde bien à ce qu'elle, elle avait envie de faire passer. Parce que forcément, une adaptation, ça veut dire un peu trahir son texte au départ, mais elle était là pour veiller à ce que la trahison aille dans le bon sens. Donc ça s'est très bien passé aussi avec Olivia Ruiz.
Ensuite, avez-vous des projets à venir ?
Oui. Plusieurs projets, des projets encore d'adaptation, puisque donc avec le projet d'Olivia Ruiz, c'est une adaptation de roman. L'adaptation de roman, c'est un genre au niveau de la bande dessinée qui marche bien en ce moment. Il y a de plus en plus de demandes. Et là, je travaille sur deux adaptations différentes. Une que je fais avec Amélikos à nouveau. On travaille sur la trilogie marseillaise de Pagnol, donc César, Fanny, Marius. Et tout seul après, donc tout seul, ça veut dire scénario, dessin, couleur, chez un autre éditeur pour lequel j'ai déjà travaillé, je travaille sur l'adaptation d'un livre de Yasmina Kadra, donc dans un tout autre registre.
Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps, Vinoc.
Avec plaisir. Merci à vous.
Merci à vous. On continue cette émission spéciale Salon du Livre Jeunesse de Saint-Odile avec un autre duo. Iris et Nayeli reçoivent à présent Yaël Hassan et Rachel Osfater.
Vous écoutez Radio Saint-O.
Bonjour Yaël, bonjour Rachel et bonjour. Bienvenue sur Radio Saint-O. Merci bonjour. De nous accorder de votre temps et de répondre à nos questions.
Merci de vous inviter.
Vous êtes venus ici à deux, alors commençons par nous pencher sur votre duo. Comment est née votre collaboration ?
Bon, je commence. on s'est rencontrés sur un salon du livre il y a, au siècle dernier.
Il y a très longtemps, au siècle dernier.
En 98.
C'était notre premier salon, je crois, à chacune.
Et on a échangé, enfin, notre premier livre.
Non. Moi, c'est elle qui est venue me dire comme elle avait adoré mon premier roman.
C'est vrai.
Et ensuite ?
Et comme elle est polie, elle a acheté le mien.
Voilà.
Et elle l'a lu dans le train qui l'a ramenait à Paris. Et elle est arrivée à Paris, elle m'a envoyé un message me disant qu'elle avait pleuré tout le trajet. Ce qui est donc la preuve que c'était un bon livre. Et qu'elle voulait qu'on se revoie. Et voilà, on est devenus amis et ennemis et amis et ennemis et amis.
Voilà. Et ça fait plus de 20 ans que ça dure. On est un très vieux couple toutes les deux.
24 ans, oui. Plus que mon mariage, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Je ne suis pas mariée avec elle. Mais...
Pourquoi écrivez-vous pour un public jeune ? Est-ce réellement différent que d'écrire pour les adultes ?
Je ne sais pas. Bon, déjà, moi, au départ, ça s'est fait par hasard, parce que le premier roman que j'ai écrit, c'était pour participer à un concours de littérature pour la jeunesse. Donc, je n'avais pas écrit de roman pour adultes avant, donc je n'ai pas pu faire la comparaison. Mais ce que je sais, c'est que ça m'a tout de suite plu d'emblée, et je me suis dit, voilà, je veux écrire pour la jeunesse.
Et moi, en fait, quand j'écris pour moi. Donc, c'est vrai que j'ai l'air vieille, mais en fait, au fond, je suis jeune. Et j'ai été publiée uniquement en jeunesse parce que mes personnages sont toujours ou des enfants ou des adolescents, mais que j'écris aussi à partir de leur point de vue à eux. Et je pense que c'est exactement ce qui me convient d'être publiée en auteur jeunesse. En tant qu'auteur jeunesse, pardon.
En lisant votre livre, nous avons été attirés par une très belle phrase, je cite « À quoi bon essayer d'émerger puisque tout est sombre ?» Fin de la citation. Pouvez-vous nous traduire votre pensée ?
On a écrit ça, nous.
Alors là,
on est doués.
Ouais. C'est dans quel livre ?
Sacha et Sacha.
De Sacha.
Ah oui, mais ça fait plus de 20 ans qu'on l'a écrit, on a oublié.
Il y a très longtemps.
On écrivait de
mais
très belles choses il y a 20 ans.
C'est Sacha qui dit ça ?
Je crois que c'est Sacha.
Alors c'est moi, Mas.
Pas de souvenir de ça, c'est beau. Ouais. Alors
c'est
redis-le,
très beau,
redis-le.
Mais quel talent, mais c'est extraordinaire.
À quoi bon essayer d'émerger puisque tout est sombre ?
Oui,
ça ressemble à Rachel.
Ça ressemble beaucoup aux gens.
Moi, j'écris pas des choses horribles comme
voilà,
ça.
Voilà, joyeuses et pleines d'optimisme que j'écris. À quoi je pensais en écrivant ça, que c'est parfois c'est ce qu'on ressent quand on va pas bien, c'est qu'on ne veut plus lutter, qu'on a envie de se laisser tomber dans le caniveau et de sangloter en pensant qu'on sera misérable toute sa vie. Et en fait, faut pas. Il faut essayer d'émerger justement. Et un des moyens que moi j'ai trouvé, que je vous conseille à tout le monde, c'est de rigoler, voilà, de se moquer de soi-même et des autres, bien sûr.
Aurons-nous la chance de retrouver votre duo prochainement ? Quels sont vos projets à venir?
Eh bien, on aimerait bien. Ouais. Ça fait un petit temps qu'on essaie de... On a très envie de récréer ensemble, mais on n'a pas encore trouvé jusqu'à présent le sujet.
On en a écrit 4 ensemble, ouais. Dont un qu'on aime toutes les deux particulièrement, ouais, qui est l'ombre. Et du coup, on n'arrive pour l'instant pas à trouver... On se lance des idées l'une et l'autre.
Qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on a envie d'écrire. Mais on fait des tentatives régulièrement.
On essaye.
C'est des flops totales, mais bon, c'est pas grave.
Pour l'instant, oui. Le dernier en date,
c'était une catastrophe. Mais on va y arriver, on ne perd pas espoir.
Encore merci, mesdames, pour vos réponses.
C'est fini à vous, c'était court. Merci à vous.
Merci à vous, vous êtes charmante.
Merci. Avant de recevoir sur ce plateau Jean Leroy et Sylvie Bossier, petite pause musicale. Juste le temps pour nos prochains invités de s'installer. Petit souvenir de 1997, Pink Martini avec Sympathique. À tout de suite.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume.
Retour sur le plateau de cette émission spéciale. Si vous venez de nous rejoindre, on est au cœur d'une série de rencontres avec les auteurs présents à cette édition 2022 du Salon du Livre Jeunesse de Saint-Odile. Lucie et Léone vont à présent accueillir Jean Leroy pour Le Livre du Loup. C'est à vous les filles.
Bonjour Jean Leroy.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de participer à notre émission spéciale.
Merci de m'avoir invité.
Dans une vie antérieure, vous étiez instituteur. Qu'est-ce qui vous a fait quitter l'enseignement et vous lancer dans l'écriture ?
C'est enseignant, c'est un métier qui m'a beaucoup plu et j'ai commencé à écrire. J'ai enseigné une dizaine d'années à peu près et j'ai commencé à écrire au bout de 5-6 ans de ma jeune carrière, on va dire. Et après, écrivant de plus en plus, j'ai senti que c'était difficile de bien faire les deux métiers en même temps. Et donc j'ai préféré arrêter d'être enseignant pour devenir écrivain à temps complet.
Vous écrivez pour différents éditeurs? Vous passez des romans aux albums en passant par des magazines. Comment jonglez-vous avec tous ces supports? Est-ce simple de passer de l'un à l'autre avec des contraintes qui varient?
Alors, ce qui serait difficile pour moi, ce serait de n'écrire que des albums ou que des romans ou que pour la presse. Et en fait, j'utilise ça aussi parce que quand j'ai plus d'idées pour les tout-petits, j'écris pour les plus grands. Quand j'ai plus d'idées pour un album, je fais du roman. Quand j'ai plus d'idées pour les romans, je refais de la presse écrite. Dans la presse, c'est une écriture vraiment sous contrainte avec un nombre de signes précis. Parfois, c'est un exercice qui fait du bien, qui me donne de nouvelles idées. Parfois, ça me bloque. Donc, quand ça me bloque, hop, je repars écrire des tout-cartons pour les tout-petits. Et pour moi, c'est plutôt un atout de pouvoir passer de l'un à l'autre.
Comment se passent vos collaborations avec les illustrateurs? Travaillez-vous en binôme? Donnez-vous des instructions? Ou au contraire, est-ce vous qui en recevez?
Alors, ce que je préfère dans mon travail, ce sont tous les échanges avec les illustrateurs, les illustratrices avec qui je travaille. 9 fois sur 10, c'est moi qui les choisis. Parce que je pensais que tout le monde faisait ça en littérature de jeunesse. Et en fait, quasiment personne ne fait ça. Souvent, c'est plutôt l'éditeur qui adresse le texte directement à l'illustrateur. Moi, ça me frustrerait beaucoup. Et très rarement, c'est un illustrateur qui vient vers moi, ce qui est le cas pour le Livre du Loup, justement. Là, c'est Sylvain, que je connaissais déjà, avec qui j'avais déjà travaillé, Sylvain Diez, qui là m'a dit, à chaque fois que je fais des rencontres scolaires, à chaque fois les enfants et les enseignants, les adultes me demandent « Mais comment on fait pour faire un livre ?» Et là, elle m'a dit « Mais tu nous écrirais pas une histoire qui parle de ça ?» Donc 9 fois sur 10, c'est moi qui vais à la rencontre des illustrateurs et illustratrices que je rencontre sur les salons ou dont je découvre le travail sur Internet. Et puis parfois, quand même, on vient vers moi et c'est bien, ça me laisse des surprises aussi. Ou c'est un éditeur qui me conseille un illustrateur.
Donc plus largement, vos livres sont-ils parfois des commandes ou êtes-vous toujours à l'initiative des projets?
Alors, je suis souvent à l'initiative des projets. Et il m'arrive parfois de faire des commandes. Et de nouveau, là, on retrouve un peu dans la commande l'écriture sous contrainte, qui est un bon exercice. J'aime bien.
Votre album Le Livre du Loup donne la part belle à l'envers du décor. Cette idée est très originale et instructive. Comment et surtout pourquoi avoir élaboré ce thème?
C'est très gentil déjà, merci. L'idée, c'est Sylvain qui l'a eue. Non, en début, pour Le Livre du Loup, on était parti, là, pour ceux qui ont lu le livre, on parle du lecteur qui se pose la question, mais d'où vient l'histoire? Qui a vraiment fait cette histoire? Et on remonte toute la chaîne en passant par le libraire, le distributeur, l'imprimeur, l'éditeur, etc. La première idée, c'était de partir dans l'autre sens, mais ça fonctionnait moins bien. C'était plus difficile pour les tout-petits de partir de l'écrivain, de l'illustrateur, puis de descendre vers le lecteur. Donc la petite idée originale qu'on a eue, c'était celle-ci. On n'a pas trouvé d'éditeur tout de suite parce que les deux premiers éditeurs qu'on avait démarchés, je ne dirais pas qui, avaient un peu peur du côté documentaire. Bon, alors que nous, non, on défendait, c'est plutôt une fiction parce que ça reste quand même une fiction. Puis il y a la petite tension de ce loup va-t-il manger les personnages de la chaîne du livre. Et on est assez content de notre chute à la fin. Quoi. Et donc au final, on a été content de pouvoir faire cette espèce de docu-fiction sur la chaîne du livre. Et c'est vrai qu'apparemment, ça plaît bien parce que le thème n'avait pas été traité, ou alors je ne sais pas s'il l'avait déjà été.
Un grand merci Jean Leroy d'avoir répondu à nos questions.
Mais je vous en prie.
Nous vous souhaitons encore de nombreux livres.
Merci beaucoup.
Émission spéciale Salon du Livre Jeunesse 2022. Rencontre avec les auteurs.
On va parler de Molière maintenant, avec Lucas et Noël Akin qui reçoivent sur ce plateau Sylvie Bossier.
Malheureusement, nous sommes au regret de vous annoncer que Sylvie Bossier est souffrante et ne pourra pas se joindre à nous. Elle devait venir nous présenter son merveilleux ouvrage « Molière d'un monde à l'autre ».
On pense bien à elle, nous lui donnons rendez-vous l'année prochaine pour notre 10e édition.
Merci, on va faire une nouvelle pause musicale avant d'attaquer la dernière partie de cette émission. Et juste après la pause, de nouvelles rencontres. A tout de suite sur Radio Sainte-O.
Worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe. He jumped so high, jumped so high. Then he lightly touch the ground. I met him in a cell in New Orleans. I was
needed me to be the eyes of age. As he spoke right out, he talked of life, talked of life. He laughed and slapped his leg a step. Said his name, Bojangles, then he danced a lick across the sand. He grabbed his pants, a better stance, oh how he jumped up high. He clicked his heels, he let go alive. Let go alive. He stood up and shook back his clothes all around. He danced for those at minstrel shows and county fairs throughout the South. He spoke with the tears of how his dog and he traveled about. His dog up and died. He just up and died. After 20 years, he still grieved. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, dance. He said, I dance now at every chance and honky tonks for drink. And tips. But most of the time I spend behind these county bars, he said, I drink some beer. He shook his head, and as he shook his head, I heard someone respectfully ask, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, dance.
De retour sur Radio Santo pour la dernière partie de notre émission spéciale. Et on va retrouver Mathias et Adèle. Ils reçoivent F pour celle pour le livre Les Formidables.
Émission spéciale Salon du Livre Jeunesse 2022. Rencontre avec les auteurs.
Bonjour Eve Pourcel et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Eve Pourcel, on ne vous présente plus. En effet, l'an dernier, vous avez gagné le prix littéraire du Salon du Livre Jeunesse de Saint-Odile pour vos formidables qui sont une source d'inspiration au quotidien. Cette année, le thème de notre journée littéraire est l'extraordinaire. Dans votre ouvrage, vous nous présentez justement des gens ordinaires qui deviennent extraordinaires. Pourquoi avoir fait ce choix ?
Très jolie présentation déjà. Merci. L'idée était de montrer qu'on peut justement tous être extraordinaires et que ces personnages sont présentés de façon à ce qu'on puisse, enfin, qui nous semble pas immense, impressionnant, intimidant, mais comme des gens effectivement tout à fait normaux, qui n'ont pas plus de moyens que vous ou moi, mais qui ont réussi à faire des choses parce qu'ils ont été plus persévérants, parce qu'ils ne se sont pas détournés de ce qui leur posait problème. Et voilà, l'objectif, enfin l'idée, la modeste idée à travers ce livre était de montrer qu'il était possible de faire énormément de choses sans moyens particuliers et que du coup, on pouvait tous, quelque part, améliorer le petit bout de terre qui nous est confié, quoi.
Votre livre s'adresse à la jeunesse. En quoi peut-il aider les enfants et adolescents à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, à mieux croire en l'humanité malgré tout ce qui se passe en ce moment ?
Bah de tout temps, il me semble que deux réalités cohabitent. Enfin, il y a toujours effectivement des choses très compliquées. Là, c'est sûr qu'on sort de quelques années déjà compliquées, que ce qui se passe en Ukraine est assez terrible. Donc bon, l'actualité n'est pas... Mais même dans les périodes assez sombres, on peut choisir de porter notre regard aussi vers ce qui se fait de beau, vers le côté lumineux des choses, parce que les deux coexistent vraiment toujours. Et du coup, voilà, c'était un petit peu le pari de ce livre-là, de se dire qu'en montrant une espèce de mosaïque de ce que l'humanité peut faire de meilleur, peut avoir de meilleur et tout, que ça nourrisse un petit peu... la confiance qu'on peut avoir en nos capacités à faire face aux choses difficiles, justement. Relever les défis qui nous attendent. Et il me semble que pour les jeunes, maintenant, c'est particulièrement nécessaire, parce que vous entendez tellement de choses à travers les infos, de perspectives d'avenir un peu compliquées, un peu sombres, de savoir que, voilà, que vous avez de la ressource et nourrir cette confiance-là me semble important.
Voilà. Dans le contexte actuel, un de vos portraits nous fait particulièrement espérer, celui de Stanislav Petrov, qui, grâce à son sang-froid, nous a évité une troisième guerre mondiale en 1983. Quel formidable vous inspire le plus en ce moment ?
Ben c'est vrai que lui, pour le coup, il résonne pas mal avec l'actualité. Moi, personnellement, ils m'inspirent tous. C'est pour ça que je les ai choisis. Je suis très sensible aussi à des questions d'environnement, parce qu'il me semble que même si c'est moins l'actualité brûlante, c'est quelque chose qui concernera tout le monde partout assez vite. Donc, des personnages comme Vandana Shiva ou Pierre Rabhi me sont assez chers. Mais... Et tout, de façon générale, tous les personnages qui ont fait un petit peu un pas de côté par rapport aux règles établies, qui se sont, face à des lois ou des règles de leur époque, etc., interrogés sur le fait, en se demandant si elles étaient justes, si ils devaient les appliquer ou si ils acceptaient de subir les conséquences de ne pas respecter cette loi-là. Parce que voilà, tout ce qui est question de ce qu'on appelle la désobéissance civile. Comment on se positionne par rapport à des injustices ? Est-ce qu'on se repose sur le fait que d'autres ont réfléchi pour nous que ça devait se passer comme ça, donc on laisse faire ? Ou est-ce qu'on passe à l'action et comment on réfléchit les choses en fonction de son esprit critique, de sa propre conscience ? Tous les personnages qui ont trait à ça me touchent beaucoup, parce que ça me semble être encore très actuel, très clairement. Voilà.
Vos formidables ont été déclinés en mini-séries. D'autres projets d'adaptation sont-ils prévus ?
Pas encore, pas à ma connaissance. Pour l'instant, effectivement, on en a fait un CD audio et ça a été mis en ligne sur l'appli Bayam pour qu'on puisse l'écouter, écouter quelques portraits le soir. Non, ce sont les seuls à l'heure actuelle.
Votre livre goûte sans portrait. Formidable. Est-ce qu'un second tome pourrait voir le jour ?
Idéalement plein, parce que ça ne manque pas des formidables. Il y en a plein. Oui, on parle de commencer prochainement un deuxième tome. C'était l'idée. Et il y a effectivement plein de noms, déjà des listes assez longues de personnes dont j'aimerais beaucoup parler. C'est clair.
Un grand merci pour toutes vos réponses et pour le temps que vous nous avez accordé, Eve Pourcel.
Merci pour votre accueil, c'était très chouette.
Merci Mathias, merci Adèle. Et après, elle est formidable, notre dernière invitée est une habituée du Salon du Livre. Merci d'accueillir Marie Colo, qui va répondre aux questions de Rose et d'Apolline.
Vous écoutez Radio Sainte-O.
Bonjour Marie Colo, soyez la bienvenue sur la RPL pour notre émission spéciale Radio Sainte-O consacrée à la littérature jeunesse.
Bonjour.
Alors justement, pour commencer... Pourquoi écrivez-vous pour un public jeune ? Est-ce une question de thème, d'écriture, de liberté ?
C'est une question d'évidence. J'ai toujours écrit pour la jeunesse et sans jamais véritablement le choisir. Enfin, les histoires, les personnages qui s'imposent à moi sont jeunes, sont des enfants, sont des personnes qui ont encore des personnages qui ont une âme d'enfant. Donc voilà.
Votre dernier album, Et si ça existait, soulève la question du choix du métier. C'est un problème auquel nous, collégiens, sommes confrontés. Et vous, avez-vous toujours su que vous écririez une fois l'adulte ?
Oui, je disais quand j'étais petite que je voulais devenir écrivaine. Donc très 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 tôt, quand j'ai appris à lire et à écrire, j'ai eu envie d'inventer des histoires, de fabriquer des livres, de les illustrer, même si ça je l'ai perdu avec le temps, je me suis concentrée sur les mots. Et voilà. Et puis après, il a fallu un certain temps pour que ça devienne vraiment mon métier à part entière. Et ça l'est à présent, depuis le début de cette année, mais auparavant j'étais prof de français.
Vous avez de nombreuses collaborations à votre actif. Alice Primo, Florence Weisser, Nancy Guilbert, Françoise Rogier. À croire que vous avez peur de la solitude. Est-ce plus riche de travailler à deux, plus amusant, peut-être moins lassant ?
Oui, certainement. Donc moi, j'adore le travail de collaboration. Ça, c'est clair que ça fait sortir de la solitude de l'écriture. Donc quand on écrit un roman seul, eh bien, on est seul. Il n'y a que soi-même qui peut l'écrire, qui rencontre les difficultés, le découragement éventuel, les doutes, hein, tout ça. Et je trouve que travailler avec d'autres, autant dans l'écriture qu'en collaborant pour des albums et avec des illustrateurs ou des illustratrices, ça enrichit vraiment ma pratique et ça m'apprend... tous les jours, quoi, au fil de cette collaboration, des aspects de ma propre écriture, de mon propre fonctionnement. Ça me permet de me renouveler, de découvrir aussi d'autres univers. Donc, je trouve ça très, très riche. Et puis, on rigole bien aussi.
Le thème de nos rencontres littéraires cette année est l'extraordinaire. Les sujets que vous abordez dans vos histoires appartiennent au quotidien. La mort, l'adolescence, les SDF, l'abandon, la musique et bien d'autres. Cependant, vous réussissez à rendre toutes vos histoires extraordinaires. Comment faites-vous ? Quel est votre secret ?
Je ne sais pas. Je ne pense pas que j'ai un secret. J'en ai pas conscience. Je pense que en fait, le point de départ de mes histoires, chaque fois, c'est quelque chose qui va venir me bousculer, me remuer, me questionner. Enfin, voilà, le point de départ de l'envie et de l'urgence et de la nécessité d'écrire, c'est vraiment la vie ou un aspect de la réalité que je vais me prendre en pleine face et je vais avoir envie d'aller voir et d'y réfléchir. Et je pense que c'est peut-être ça. Enfin, j'ai l'impression que mes livres les plus réussis sont ceux qui ont vraiment... Mais c'est la plupart. Je ne suis pas en train de dire que tous mes livres sont réussis, mais ont été vraiment écrits avec les tripes. Et c'est peut-être ça qui caractérise peut-être mon écriture. Mais je ne sais vraiment pas, cette question est très difficile.
En exergue de vos pêcheurs d'éternité, on peut lire une citation de Khalil Gibran. Fiez-vous aux rêves, car en eux est cachée la porte de l'éternité. Pouvez-vous nous expliquer ce choix de citation ?
Oui, en fait, dans chacun de mes livres, je choisis toujours de mettre une citation en ouverture. Et elle fait pour moi écho soit aux conditions de mon écriture, soit à ce que moi j'ai vu dans le texte. Où c'est une phrase qui m'a porté, qui m'a donné du souffle pendant l'écriture. Et en fait, Les Pêcheurs d'éternité, c'est un livre assez particulier pour moi parce que je l'ai écrit sans vraiment le décider au moment où j'étais en train de perdre mon papa et où il allait mourir. Et donc, il y a cette dimension d'éternité, de ce qui survit, de ce qui peut être beau dans le plus tragique qui était là en tête. Et dans ce texte, ça parle de méduses immortelles parce que Flore, l'héroïne, espère en pêcher. Et voilà, ça fait aussi écho à l'immortalité, à ce qui reste des autres quand ils s'en vont.
Merci pour toutes vos réponses et pour votre sourire, Marie-Colo.
Merci à vous.
Merci à tous les auteurs qui ont répondu présents pour participer à cette émission spéciale. Si vous voulez réécouter ces interviews, cette émission sera disponible en podcast sur le site internet de notre radio partenaire, RPL Radio. On se quitte avec le groupe Hills qui reprend Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. À l'année prochaine!
Wise men say
fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things were meant to be. Take my hand, take my whole life too.